Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Et je vous invite à une année pleine de spiritualité et de sexualité, puisque c'est le titre de notre série que vous avez déjà écoutée hier avec Monseigneur Gobillard. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de la sexualité et spiritualité avec Nadia Elbouga. Bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est la chance de vous avoir avec nous pour aborder un point de vue musulman, bien sûr, mais vous êtes aussi dans l'action puisque vous êtes sexologue, clinicienne et que vous êtes sage-femme. Vous êtes également chroniqueuse à Beurre FM, donc vous êtes habituée à la radio et c'est un plaisir donc de vous recevoir après ce livre que j'ai lu avec intérêt, bien sûr, La sexualité dévoilée, que vous avez écrit avec Victoria Guérin, qui est publié chez Grasset. Alors, vous êtes mariée, deux enfants, et vous avez un monsieur dans votre vie qui est ingénieur avec lequel vous travaillez, si j'ai bien compris, pour essayer de relire le Coran, c'est-à-dire la base du Coran, et de démontrer comment ça a été travesti un peu l'idée ou ce qui est écrit dans le Coran, surtout par des rigoristes qui ont développé des choses qui ne vous conviennent pas, puisqu'ils mettent en question le rôle de la femme essentiellement. Et donc le retentissement, il est immédiat sur la sexualité et sur, y compris aussi pour les hommes d'ailleurs, leur positionnement par rapport à dans la société. C'est bien tout ça que nous allons aborder, si vous en êtes d'accord.
Tout à fait.
Alors, effectivement, la première notion que l'on a, un peu qui traîne, mais qui traîne sur des déclarations, pour ceux qui n'ont pas lu les textes, c'est que la femme est infériorisée, opprimée, soumise dans la religion musulmane, puisque nous parlons d'elle aujourd'hui. Pourtant, dans votre livre, vous faites référence à une période, on va dire, andalouse, peut-être un peu formidable, où il n'y avait pas du tout cette attitude-là, où les femmes étaient reconnues aussi bien dans les sciences que même dans la religion, puisqu'il y a un moment où les religions, enfin la prière plus exactement, se faisaient ensemble, hommes et femmes. Et donc, vous citez dans votre livre un certain nombre de femmes, dont tout d'abord, on va parler de Aïcha, qui est la troisième femme du prophète, qu'il a épousée très jeune, hein, elle avait 9 ans, apparemment, enfin on dit ça. Mais quoi qu'il en soit, à sa mort, elle va essayer de maintenir la position de la femme de façon beaucoup plus élevée qu'actuellement.
Alors sur cette question de l'âge de Aïcha, il y a justement des historiens qui ont repris des recherches et qui ont croisé en fonction des événements et de l'âge qu'avait la propre sœur de Aïcha. Et il semblerait, d'après les recherches des historiens, qu'elle n'avait absolument pas 9 ans à l'âge où elle a épousé le prophète, mais plutôt 18 ans.
Ah, alors là, on est en train de commencer à réviser les fausses informations.
Hein. Et ça crée toute une polémique parce que les rigoristes justement religieux n'admettent pas du tout cette révision, si je peux dire ça comme ça, de l'histoire, parce que vous pensez bien que ça déconstruirait profondément tout ce qui se passe dans certains pays depuis maintenant un certain nombre de siècles, à savoir les mariages précoces, les mariages forcés de jeunes filles et tout ce qui s'ensuit derrière.
Et si on regarde même la situation, on va dire, contemporaine, avec en particulier l'État islamique, on voit bien dans des publications qui ont été faites par quelques rescapés, on va dire, je pense à Sophie Kazinski, à Jinam et puis à Sarah, qui ont publié des livres sur leur enfermement et sur le viol qu'elles ont subi. Et on voit bien que de violer des enfants, enfin des jeunes filles de 9 ans, ça les gêne pas. Donc ils sont en position rigoriste d'accepter ce genre de situation. Là, c'est un viol, hein, c'est pas un mariage.
Oui, oui. Mais oui, quelle différence, voilà, peut-on faire lorsque on parle là de, alors effectivement, là, vous parlez de probablement de femmes adultes. Mais ça ne justifie en rien qu'effectivement le viol est condamnable. Mais pour revenir à donc l'âge de Aïcha, effectivement, certains justifient justement le la sexualité d'adultes, enfin des adultes avec des filles, hein, des filles, donc des enfants, d'après justement cette compréhension là, cette lecture là de des textes et de l'histoire, donc qui date de l'époque du prophète. Donc il est très important, notamment pour des musulmans dits réformistes, d'insister sur ce moment-là de l'histoire et d'enjoindre justement les historiens à rechercher justement et à rectifier certaines données qui jusqu'à maintenant, dans la majorité des pays musulmans, semblent complètement acquises. C'est-à-dire que pour certains, il n'est pas question de discuter l'âge de Aïcha, c'est comme ça, c'est le prophète, il a une exception, et puis comme c'est le modèle, eh bien, quand bien même nous, hommes, nous ne sommes pas le prophète, eh bien, comme nous suivons un modèle, nous pouvons appliquer voilà tout ce qu'il a fait, et de ce fait, si on part du principe que Aïcha avait 9 ans, alors... pourquoi serions-nous choqués finalement qu'un adulte puisse se marier avec un enfant? Donc c'est important, j'insiste vraiment là-dessus, parce que de cette donnée-là découle vraiment beaucoup de violence, de maltraitance et de discrimination concernant les jeunes filles et les femmes. Donc effectivement, pour revenir à votre remarque concernant l'époque de l'islam des Lumières, effectivement, je me suis rendu compte en fait que dans l'histoire musulmane, il y a le récit de certains savants qui nous décrivent plus de 1500 femmes qui ont contribué à l'essor de l'islam, notamment l'islam andalou, dans tous les domaines, que ce soit la jurisprudence, que ce soit la poésie, la littérature, l'art. Lorsque au XXIe siècle, on s'intéresse un peu au domaine religieux, donc notamment dans l'islam, on se rend compte que finalement, on ne parle pas de ces femmes-là, et qu'en réalité, ce qui ressort essentiellement, c'est une herméneutique coranique masculine, avec voilà des interprétations qui sont colorées essentiellement d'une vision masculine, et il n'y a pas de référence ou très peu de références à l'apport féminin, et c'est problématique. Bien parce sûr. Que dans un monde où nous sommes des hommes et des femmes et que on compose avec les deux sexes, il est quand même très gênant et très problématique qu'il n'y ait qu'une partie de l'humanité qui s'approprie le texte scripturaire et donc le religieux et le spirituel.
Et voilà, et dans cette appropriation, comme vous dites, il y a sûrement des choses à revoir. Alors, juste pour réexpliquer la base, c'est-à-dire qu'il y a le Coran et puis avec les sourates, hein, qui sont les cris, hein, oui. Et puis il y a les hadiths. Voilà. Qui, eux, je dirais, dont certains sont authentifiés, d'autres ne sont pas. Ce sont des commentaires oraux qui sont transmis. Et là, il y a matière à discussion, parce qu'il y a certains hadiths qui sont encore plus rigoristes que le texte. C'est un peu votre démembrement que vous cherchez à faire avec d'autres. Et qui, donc, je dirais, mérite justement un esprit critique, et en particulier celui que vous venez de citer, c'est-à-dire pourquoi est-ce que certaines femmes ne sont pas reconnues. Je pense à Albanine, qui a créé la mosquée de Fès, je pense à celle-ci qui dit qu'elle valait plus de 100 hommes, voilà, c'était aussi un mouvement soufi, des poètes, enfin, voilà, il y a une place pour les femmes dans cette période, on va dire, d'or, Et puis, il y a quelque chose qui se rétrécit. Alors, dans cette différence, on va voir que la position de la femme, le point de vue sur la femme, va retentir sur ce qui nous amène à discuter aujourd'hui sur la sexualité dans le monde de l'islam. Et je voudrais vous poser quelques questions pour essayer d'y répondre, comme l'a fait d'ailleurs Asma Lamrabet avec avec sa publication Islam et les femmes, en particulier, et on voit une proximité de pensée entre vous deux, entre autres. Alors, est-ce que le Coran permet la polygamie?
Alors, tout texte religieux, et le Coran en fait partie, doit être remis dans son contexte. Au moment de la révélation coranique, n'oublions pas que la polygamie faisait partie du système social de cette époque. Il y avait le mariage avec un nombre de femmes illimité, mariage ou pas d'ailleurs, puisqu'il y avait des concubines, des esclaves. Donc un homme pouvait posséder autant de femmes qui le souhaitaient. Donc la révélation est arrivée avec justement ce désir aussi de codifier certaines injustices, et la polygamie en faisait partie. Puisque à l'époque, n'oublions pas que la femme, ça n'a pas beaucoup changé dans certains endroits, mais la femme était vraiment un objet, donc elle s'héritait, on se l'accaparait lors d'une bataille comme un butin de guerre. Voilà, c'est un objet, tout à fait. Et donc, le Coran est arrivé, le texte coranique est arrivé en restreignant en fait cette polygamie, c'est-à-dire que d'un nombre illimité, le verset coranique limite à 4, mais le verset coranique, et ça en Arabie Saoudite on semble l'avoir oublié, ne s'arrête pas à ce nombre qui...
Il prône plutôt un système idéal.
Jusqu'à la fin, si on va jusqu'à la fin du verset, il est bien dit que ce qui est préférable, puisque par essence l'humain peut être injuste, eh bien c'est la monogamie qui est...
C'est ça, la fin du verset va jusqu'à la monogamie, à conseiller, exactement. À dire que c'est le nec plus ultra, on va dire, quelque part. Enfin, peut-être pas jusqu'à là, mais ça ouvre
la porte. En tout cas, voilà. Et ce n'est pas du tout comme ça que ce verset est interprété. Il est interprété de telle manière que certains pays même ont autorisé, en tout cas, non pas pénalisé la polygamie. Et certains savants, d'ailleurs, ont avancé comme argument que ça permettait à certaines femmes de ne pas se retrouver sans mari, et donc économiquement démunies. Alors, probablement que dans certains systèmes, ça répondait aussi à une problématique sociétale et économique, mais en faire un principe universel dans les relations hommes-femmes, ce n'est absolument pas ce que dit le Coran.
Alors justement, ce que dit le Coran, apparemment, c'est que dans le début de l'humanité, Adam et Ève, il y a une co-responsabilité, et pas du tout une faute qui incombe à la femme, comme c'est dans les autres traditions, en particulier catholiques. Donc, cette co-responsabilité vise à considérer un équilibre entre la femme et l'homme, ce que vous soutenez dans votre lecture du Coran.
Tout à fait. En fait, la notion de qiwama, le qiwama, c'est le terme arabe qui est utilisé, qui a été utilisé justement et mal traduit, notamment en français, comme la prédominance, la supériorité de l'homme sur la femme. En réalité, non. Parce que toujours, remettons-nous dans le contexte, hein, il y a des versets qui ont une vocation spirituelle, avec justement des notions, des valeurs universelles, et des versets qui sont conjoncturels, c'est-à-dire qui sont liés à l'époque de la révélation. Et la notion de qiwama que l'on traduit comme prédominance, en réalité, on devrait la traduire, et Asma Lamrabet a fait une étude là-dessus justement, devrait être traduit par co-responsabilité, puisque à cette époque-là, et d'ailleurs comme beaucoup de contrées à cette époque, il y avait, il y a toujours d'ailleurs, ce système patriarcal qui faisait que l'homme subvenait aux besoins de la famille, c'était le chef de famille et c'est lui qui pourvoyait aux besoins financiers et économiques de la famille. De nos jours, et depuis quand même un certain temps maintenant, la femme pourvoit également aux besoins de la famille. Donc, cette notion de qiwama doit être traduite au jour d'aujourd'hui comme co-responsabilité.
Oui, c'est-à-dire vous prenez une adaptation, je dirais, à l'évolution de la société par rapport au principe, encore une fois, qu'on retrouve dans la lecture du Coran, oui, qui n'est pas forcément dans la lecture de certains hadiths, hein, qui sont donc des commentaires retransmis, parce que j'en vois quelques-uns, la femme est mieux chez elle, sa prière vaut 25 fois plus si elle est faite chez elle plutôt qu'à la mosquée, les femmes sont des jouets, donc choisissez-les bien. Mm-hmm. Donc c'est sûr qu'on retrouve dans les hadiths déjà des considérations tout à fait désobligeantes pour la femme.
Alors il faut justement noter que il y a eu une époque après donc la mort du prophète, il y a eu une époque de forgerie des hadiths, c'est-à-dire que les pouvoirs politiques de l'époque et les savants, les juristes de cette époque-là, pour des raisons politiques et de pouvoir, ont justement utiliser et forger des hadiths qui n'ont justement été pas, qui n'ont pas été authentifiés, ou alors qui ont été authentifiés par certains, mais pour servir certains intérêts. Et la femme en a fait les frais. Donc il y avait déjà des guéguerres internes après la mort du prophète pour savoir qui allait prendre le pouvoir. Alors vous pensez bien que s'il y a des hommes et des femmes là-dedans, si on peut éliminer une partie des ennemis, et donc cette partie-là identifiée sont les femmes, alors ça diminue le nombre de personnes à combattre. Alors ça fait sourire comme ça, mais malheureusement c'est une réalité. Et pour évincer les femmes de la cité, de l'espace public, on a utilisé les fameux hadiths, puisque retoucher au verset coranique n'était pas possible.
Alors, on trouve des traditions musulmanes, je prononce peut-être mal, la enchouma, hein, la honte,
qui va
être assez présente et qui s'approche un peu de notre thématique. Puisque il y a une espèce de bon, par exemple, il faut fermer les jambes. On ne parle pas, bien sûr, de l'appareil génital. On ne sait pas ce que c'est que le clitoris. Et on est dans un monde où il y a un rituel de cadenassage. J'ai appris ça dans votre livre, je dirais, Nadia El Bouga, que vous avez écrit chez Grasset, donc la sexualité dévoilée. En particulier, les petites filles doivent enjamber une malle ouverte, ou bien se scarifier le genou en disant « sors de mon genou, ferme mon petit trou », et ceci, elle le répète cette fois. Donc il y a une espèce de quand même d'empreinte, hein, je dirais, par rapport à une sexualité qui est à venir, mais en tous les cas qui est totalement codifiée. Il y a aussi la crainte des djinns, hein, des génies d'Aladin. Et puis le fait que certains guérisseurs ou marabouts puissent utiliser la magie, le chour, qu'on peut, avec les cheveux, les ongles, le placenta, qui peuvent être porteurs de cette magie. Donc en un mot, cette magie qui va essayer de limiter tout ce qui pourrait être un accomplissement sexuel. Logique, vous êtes d'accord avec cette interprétation ?
Oui, tout à fait. Tout ce que vous venez de citer, effectivement, est lié, puisque le point commun de tout cela reste le contrôle du corps de la femme, parce que il y a cette problématique de la filiation, hein, pour que l'homme puisse s'assurer qu'il est bien le père de l'enfant qu'il va élever, alors il doit contrôler la sexualité des femmes. Et donc ça passe effectivement par des rituels qui sont utilisés pour que cette jeune fille, future femme, n'ait pas de rapport sexuel avant le mariage, et donc avant la personne qui lui sera, enfin qui sera choisie, ou qu'elle aura choisie avec des guillemets. Donc du coup, on se retrouve effectivement là avec donc des rituels qui sont utilisés comme celui de la malle dont je parle dans le livre et qui provoque un trouble que l'on connaît en sexologie qui est celui du vaginisme pour certaines femmes.
C'est-à-dire un refus de toute intromission et donc de la pénétration sexuelle.
Quoi. Exactement. Et d'une part, et d'autre part, on se retrouve également, alors ça, les rituels sahur que vous avez cités, les rituels magiques, incantatoires, peuvent aussi amener aux mêmes effets, mais il y a également plus pernicieux, et ça pour le coup on le retrouve chez les personnes pratiquantes ou pas, la notion de hshuma, qui est en fait une injonction morale tacite qui est prononcée dans quasiment toutes les familles du Maghreb.
C'est la honte, la traduction.
Alors voilà,
honte à toi.
Voilà, honte à toi si tu ne t'assois pas convenablement, honte à toi si tu n'as pas le comportement décent que la société attend de toi, que la famille attend de toi. Et en fait, cette chouma, elle n'est pas du tout, elle n'a aucune origine religieuse. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'elle est même plus puissante que le religieux, puisque le haram, qui est l'interdit religieux, pèse moins dans la société que la chouma. Et les conséquences que la chouma a sont catastrophiques, puisque on a des personnes qui se retrouvent avec une aversion sexuelle, avec un dégoût de leur corps, avec une mésestime d'eux-mêmes. Donc ça a des conséquences sur la sexualité des personnes, mais également sur leur vie, leur travail, la valeur qu'ils se donnent. Ça a un impact vraiment très profond.
Donc c'est une particularité, on va dire, dans le monde de l'islam, de ces traditions qui influencent les comportements, surtout les comportements, on va dire, aujourd'hui, parce que vous insistez bien sur transformation de la société qui traîne à bouger. Et on va parler après la pause, par exemple, de la situation des jeunes dans certains pays musulmans. Il y a eu une étude qui a été faite en Algérie sur laquelle je voudrais revenir, sur les relations avant mariage, sur lesquelles nous reviendrons après cette pause musicale.
Nkanu tara yorojana ale maso seima Njarabi tara yorojana ale maso seima Nderini, nderini ngabedisa Njarabi mapega nyalo nyala Nderini I want to know
à penser, René Friedman.
Vous êtes sur France Culture en compagnie de Nadia Elbouga, sexologue, féministe et musulmane, auteur avec Victoria Guérin, journaliste au Point de la sexualité dévoilée aux éditions Grasset. Nous sommes en ce début d'année plein de vœux pour tous ceux qui veulent vivre pleinement leur sexualité et leur spiritualité, puisque c'est le thème de notre série. Et là, nous sommes donc sur le monde de l'islam. Et nous venons d'écouter Fatoumata Nterini qui raconte en Bambara une histoire d'amour de gens qui sont en pleine migration.
Tout à fait. Des personnes qui se séparent suite à la migration et du coup qui se retrouvent à rechercher leur l'amour de leur vie.
Alors c'est une situation générale bien entendu, mais qui peut être particulière dans certains mondes, et en particulier cette enquête qui a été menée en Algérie et qui montre que pour les jeunes, les relations avant mariage sont interdites selon la religion, et que bon, bien sûr c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais par contre si on veut une chambre double dans un hôtel, il faut donner son livret de famille. Donc ça a déjà sa limite. Et puis, ça peut être puni d'un mois à un an d'emprisonnement. Donc ça dépend un peu de qu'il y a un marché noir, des meublés. Il y a tout un tas d'activités comme de reconstruction de l'hymen aussi, pour celles qui ont eu des rapports. On parle aussi de l'hymen chinois, qui est une espèce de...
Oui, petite poche de sang de poulet.
que l'on met et qui font croire que c'était la première fois. Oui. Donc on est dans des contorsions, je vais dire, alors que... Encore une fois, dans l'islam qui précède le wahhabisme, on retrouve des grands écrivains, je dirais, qui sont des mystiques, qu'ils soient persans, qu'ils soient, je dirais, du Maghreb. Par exemple, je pense à Farid Aldin Attar, qui parle de la conférence des oiseaux. Je pense à Al-Suyuti, qui publie 12 traités
d'érotologie
au XVe siècle. Et donc, qui considère que l'amour et la chair sont des choses bonnes. Ce n'est pas quelque chose à dédaigner ni à avoir honte. Parce que le mot honte, on l'a vu tout à l'heure, revient trop fréquemment. Vous faites partie aujourd'hui de quelques femmes qui font état de leur volonté de modifier les choses. Votre position est très particulière parce que vous êtes en contact avec des souffrances sexuelles des hommes et des femmes. On va en parler dans un instant du fait de votre métier, non seulement de sage-femme, mais surtout de psychologue, clinicienne, sexologue. Je voulais juste citer Leïla Slimani, par exemple, Sexe et mensonges, qui parle de la vie sexuelle au Maroc, de Nejma, Ambre et de Soie, sur la liberté sexuelle. Voilà, il y a, si vous voulez, des écrits quoi qu'il faut lire pour comprendre qu'il y a une opposition qui est en train de se faire, une opposition aux traditions qui ne bougent pas. C'est bien ça la chose. Alors, comment se manifeste votre pratique de sexologue? Quelles sont les souffrances que vous avez constatées le plus? Est-ce que, par exemple, la condamnation de la masturbation, qui est incluse dans tout ça, c'est quelque chose que vous avez en clinique, des personnes qui souffrent de cette situation ou d'autres? Est-ce qu'il y a des particularités selon le contexte qu'on a évoqué là?
Oui. Alors, il y a effectivement des... Donc, je me remets dans le contexte français. C'est vrai que j'ai une grande population de par la situation de mon cabinet. Je suis donc à Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise, au croisement de vraiment plusieurs populations. Et donc, il y a une forte population maghrébine, de confession musulmane ou pas d'ailleurs, qui est fortement imprégnée de la culture et de l'environnement de leur pays d'origine. Alors pourquoi je spécifie ça? Parce que Abdessamad Dialmi, qui est un sociologue marocain qui a écrit moult livres sur la question de la sexualité, c'est un des premiers qui s'est posé la question sur la problématique sexuelle au Maroc et dans les mondes arabes. Eh bien, il décrit une situation de transition sexuelle. Il explique que à une certaine époque, il y avait justement une corrélation entre la norme et les pratiques sexuelles. Donc cette norme était dite islamique et la pratique allait de pair.
C'est-à-dire que c'est quoi la norme islamique?
C'est-à-dire le dogme qui préconisait pas de sexualité avant le mariage, donc les gens appliquaient ça, en tout cas en grande partie, c'est ce qu'on retrouvait sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on est dans une norme qui reste encore dite islamique, donc avec une interdiction de relations sexuelles préconjugales, interdiction de la masturbation, enfin des interdits en tout cas concernant les sexualités, l'homosexualité également, et une pratique par contre, elle, qui est complètement détachée de ce dogme. Donc, ce qui fait que ça crée une schizophrénie entre ce qui est l'apparent, et donc le code pénal va avec cet apparent-là, et la réalité de terrain qui est une explosion de la sexualité préconjugale, de la sexualité des jeunes, de la pratique de la sexualité personnelle, donc on appelle masturbation. Je n'aime pas trop ce mot-là parce qu'il est connoté négativement, justement. Donc je préfère auto-érotisme. De l'homosexualité, transsexualité, je mets de grosses guillemets parce que on parle plutôt maintenant de transgenralité. Et donc du coup, il y a ce décalage et l'objectif, en tout cas, est d'arriver vers la troisième étape dont parle Abdessamad Dialmi, c'est-à-dire vraiment une sécularisation de la sexualité, alors pour le coup dans les pays arabo-musulmans, mais aussi dans l'esprit des gens, c'est-à-dire si je suis pour la sexualité après le mariage, ok, soit, pas de souci. Mais ça me concerne. Je n'ai pas à imposer cette conception-là à tout le peuple et en plus de surcroît pénaliser ceux qui ne l'appliquent pas. C'est-à-dire vraiment se retrouver avec une pratique sexuelle et une norme qui se retrouve du coup cohérente. Au cabinet, pour revenir à votre questionnement, c'est ce que je retrouve. Des gens, justement, qui sont déchirés dans une espèce de semi-sécularisation psychique qui ne colle pas avec ce qui se dit, ce qui se fait. Donc, il y a une culpabilité concernant la pratique de la masturbation. Les personnes qui sont d'orientation homosexuelle viennent avec une demande de « guérissez-moi ». Je suis malade, je ne suis pas normale, c'est puni, je vais avoir la foudre divine qui va me tomber dessus, je souhaite être absous avant de mourir pour me retrouver au paradis avec tous les croyants. Donc c'est ce genre de demande-là et des personnes qui sont en réelle souffrance. Des femmes qui se retrouvent avec, ça vous allez me dire, c'est pas une problématique spécifiquement arabo-musulmane, hein, on retrouve ça chez tous les humains, mais en tout cas, chez ces populations-là, c'est très prégnant, des femmes qui se retrouvent avec une détestation de leur corps, qui souhaiteraient, qui entendent parler de plaisir, de désir, qui souhaiteraient s'épanouir, mais qui n'y arrive pas, qui se questionne comment est-ce que je peux vivre ma sexualité, ma féminité avec ce que je suis, c'est-à-dire mon bagage culturel, avec mes racines, avec ce que je suis aussi, le contexte dans lequel je vis, sans être constamment comme ça dans un déchirement, dans une schizophrénie, dans une espèce de devoir de loyauté à quelque chose qu'on ne comprend même pas, qu'on ne palpe même pas. Et chez les hommes, eh bien, il y a toujours ce paradigme du virilisme de toute puissance qui est là. D'ailleurs, je parle plutôt maintenant de viriarcat que de patriarcat, puisque c'est plus question de ça, en fait. Hein, c'est la problématique de la virilité et comment elle est comprise, comment elle est vécue. Et donc, des hommes qui se retrouvent entre une injonction de performance et en même temps quelque chose de très intériorisé qui leur dit oui mais est-ce que être homme, être masculin, c'est réellement ça? Je sens moi qu'il y a quelque chose, il y a des émotions, j'ai envie d'exprimer quelque chose de plus doux, de plus serein et c'est pas ce qu'on me demande d'être, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce qui va me permettre de me positionner dans cette société. Donc voilà, ce sont toutes ces problématiques et la sexualité, les sexualités, hein, parce qu'il y en a, il y en a pas qu'une, se retrouvent comme ça prises dans ce tourbillon là. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir, co-travailler ensemble sur la représentation justement de ce que c'est que la femme, les femmes, hein, parce que pareil, il n'y a pas une femme, hein, ce sont les femmes. Il y a autant de représentations de femmes que de femmes sur Terre. Les masculinités, comment déconstruire ce qui a été malheureusement intériorisé et ancré jusqu'à maintenant, et ça pour le coup dans toutes les sociétés, et bien redéconstruire tout ça et proposer d'autres possibilités, d'autres masculinités possibles qui ne remettent absolument pas en cause la capacité d'être un homme au sens de humain.
Nadia Albouga, vous évoquez dans votre livre La sexualité dévoilée des situations qui tendent à faire que, encore une fois, les sourates, les écrits du Coran, sont plus libérales que ce qui est venu par la suite et ce qui a été transcrit dans certains hadiths. Et j'en ai pour preuve cette histoire assez drôle entre les femmes de Médine et de la Mecque qui ont des pratiques sexuelles différentes et qui vont voir le prophète pour en discuter, puisque certaines, je ne sais plus lesquelles, ont l'habitude d'avoir des rapports retournés, va dire, hein, alors que les autres non, et elles viennent en parler clairement avec avec le prophète, c'est bien ça?
Tout à fait. C'est au moment de l'égir, lorsque les Mécois ont émigré vers Médine, eh bien il y a eu des mariages qui se constituaient entre les Mécois et les Médinoises. Et à la Mecque, il y avait justement dans les positions sexuelles, il y avait la position dite de la levrette, donc l'homme derrière la femme, qui ne se faisait pas à Médine, puisqu'il y avait une croyance à l'époque, notamment dans la communauté juive de Médine, que si un enfant naissait suite à cette position, il souffrirait de strabisme et d'autres pathologies, entre autres.
Bien sûr.
Il y avait cette croyance ancrée. Et donc, il y a eu un conflit dans ces couples-là. Et les femmes, ce sont les femmes qui ont été voir le prophète et qui lui ont donc fait part de cette problématique-là, pour savoir si elles avaient justement ce droit de pouvoir s'exprimer, de refuser cette position-là dans le cadre de la relation conjugale. Pourquoi je parle de cet événement-là? C'est parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui paraît complètement impensable à notre époque, avec des savants imprégnés de wahhabisme, de salafisme, donc d'une compréhension vraiment très sclérosée du texte sacré, alors que ça se faisait très naturellement à l'époque. Et d'ailleurs, suite à ça, le prophète a répondu et il y a eu la révélation d'un verset. Donc c'est dire qu'en réalité, et c'est ce qui m'a questionné moi, c'est comment, d'une époque où on pouvait parler, où les femmes pouvaient parler de sexualité, de leur sexualité, sans aucun tabou, nous sommes arrivés aujourd'hui à la femme objet, que jamais pensée comme sujet de sa sexualité, et encore moins se questionnant sur sa sexualité, sur son désir, sur son plaisir, sur ses choix sexuels. Donc voilà, c'était. Il y a d'autres anecdotes également, il n'y a pas que celle-ci, mais lorsque on s'intéresse un tant soit peu à la question des sexualités dans l'islam, eh bien on découvre justement ces petits moments-là de l'histoire musulmane qu'il est bon, je pense, à notre époque de raviver et de raconter.
Ben oui, parce qu'on est aussi à une période, on le voit de temps en temps, il y a malheureusement ce qu'on appelle des crimes d'honneur, où, je veux dire, les hommes, les frères, les oncles, enfin je sais pas qui, prennent le droit d'agir, parfois de tuer donc une jeune femme parce qu'ils estiment qu'elle a eu justement une liaison hors mariage ou quelque chose de ce type. Et j'aime bien votre chapitre, Nadia Albouga, aussi vous revenez sur l'histoire de la lapidation. Parce que c'est vrai qu'on reste, pour nous non-musulmans, on reste en train de croire que effectivement c'est la lapidation à mort est quelque chose qui est, établi dans l'islam pour l'adultère. Et en fait, quand vous reprenez, le texte du Coran, c'est beaucoup plus souple que cela.
Exactement. C'est beaucoup plus souple que cela, et notamment dans la pratique. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on fouille dans l'histoire, on se rend compte que le prophète lui-même détestait justement cette pratique-là et il n'a jamais enjoint à la mettre en pratique. C'est-à-dire que tout était fait, parce que n'oublions pas que la lapidation n'est pas une invention musulmane, c'est quelque chose qui préexistait à l'islam, c'était un mode punitif de l'époque et justement c'est une chose que le prophète détestait et dans la réalité elle n'était pas mise en pratique. Elle est de nos jours.
Alors, on peut toujours dire qu'elle n'était pas mise en pratique, mais enfin, quand même, elle est là. Mais dans le texte, si j'ai bien compris, l'homme et la femme peuvent être flagellés. C'est-à-dire, de la lapidation passe à la flagellation. D'une part, c'est déjà, bon, enfin, c'est une punition inacceptable, mais, je veux dire, c'est pas la lapidation à mort. Et surtout, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que, en fait, les deux sont co-responsables. C'est pas la femme qui est responsable du démon sexuel.
Alors, exactement. D'ailleurs, c'est très important ce que vous dites, puisque cette co-responsabilité, d'ailleurs, dans le texte coranique, n'oublions pas, et je reviens à cette notion, justement, de co-responsabilité et d'égalité essentielle entre l'homme et la femme, c'est qu'il y a quand même plusieurs versets dans le Coran qui disent bien que Ève ne descend pas d'Adam, elle ne sort pas de la côte d'Adam. Donc là, ça a été un syncrétisme pour le coup. Le texte coranique est clair là-dessus. L'homme et la femme ont été créés d'une âme, donc nefs wahida, une âme, une essence qui a donné l'homme et la femme. Donc, de manière égale. Alors, ça peut faire sourire comme ça, mais c'est très important de le dire et de le redire parce que les interprétations, donc les exégèses qui ont été faites par la suite ne mentionnent pas ça. On oublie justement que dans l'essence même du texte scripturaire, il y a une égalité de fait spirituelle et existentielle de l'homme et la femme. Donc c'est aberrant d'en arriver au jour d'aujourd'hui à continuer à dire et à traduire que l'homme prédomine sur la femme alors que le divin lui-même dit qu'ils sont d'essence égale.
Alors c'est drôle parce que j'ai pu interviewer il y a peu de temps Delphine Horviller qui dans la tradition juive dénote la même chose, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il y a une erreur d'interprétation, que Ève n'est pas née de la côte mais à côté. Donc c'est aussi la simultanéité et la considération égalitaire. Oui. Donc c'est intéressant que dans les deux religions, je dirais, il y a une volonté de retraduire, je dirais, les textes et peut-être de montrer qu'il y a eu une orientation qui s'est installée ensuite pour différentes raisons et qui sont pas satisfaisantes.
Oui. Et c'est une urgence, c'est-à-dire que il faut justement que les exégèses, que l'herméneutique des textes scripturaires soient faites par des femmes également. Et elles ont largement la capacité de le faire.
Eh bien écoutez, merci d'être venu pour ce début d'année, pour ouvrir l'année justement sur la réflexion et le point de vue critique des textes, mais tout ça dans un point de vue positif, pour que les hommes et les femmes qui viennent vous voir en consultation aillent mieux dans leur trouble, qui des fois est très important. Cette émission avec vous, Nadia Elmouga, a été réalisée grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Nino Lima et Pierre Monteil. Vous pourrez retrouver toutes ces informations de la semaine sur le site internet franceculture.fr, la réécouter autant que vous le souhaitez. Et demain, nous parlerons de spiritualité et judaïsme. Donc vous voyez, on va continuer cette révision des textes sacrés et leur évolution ou leur perturbation qui a été provoquée par certains rétrogrades. Daniel Siboni, Florian Chinsky seront ici et nous continuons donc dans la série Spiritualité et Sexualité. Merci Nadia Elbouga.